Vous êtes sur RTL.
Le journal maintenant avec vous, Dominique Tenza, bonjour.
Ah, bonjour Julien et bonjour à tous.
Et d'abord le choc ce matin à Marseille après les annonces hier soir du ministre Olivier Véran.
Nouvelle restriction, fermeture des bars et des restaurants dès samedi. La métropole en état d'alerte maximale, estime le gouvernement. Les autres grandes villes ne sont pas épargnées, on va y revenir. L'ADN livrera peut-être bientôt les derniers secrets de Michel Fourniret. Plusieurs vieilles affaires sur le point d'être relancées. Ces fameux cold cases, on décrypte avec notre brigade RTL dans ce journal. Et puis Saint-Germain-des-Prés en deuil après la disparition hier de Juliette Gréco. La jolie môme avait 93 ans.
RTL Matin.
Colère et stupeur ce matin à Marseille. Il faut dire la vérité, personne ne s'attendait à des mesures aussi drastiques.
Les bars et les restaurants devront fermer dès samedi dans toute la métropole. Ce sera le cas également en Guadeloupe. Deux territoires placés en zone d'alerte maximale. Rouge écarlate selon la nouvelle palette de couleurs du gouvernement. Ce qui signifie tout un tas de nouvelles règles annoncées hier soir par le ministre Olivier Véran.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, ne sont donc pas concernés par les mesures. Ces dispositions, elles sont temporaires. L'objectif est qu'elles ne durent pas plus de 2 semaines. Elles impactent très fortement certains secteurs. Toutes ces entreprises seront financièrement évidemment soutenues. L'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place au moment du confinement leur seront de nouveau ouverts.
Voilà pour ces nouvelles mesures applicables donc dans la métropole ex-Marseille et en Guadeloupe. Les mesures jugées particulièrement sévères à Marseille, comme l'impression d'être puni, de revivre en partie le cauchemar du confinement. La colère de Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie.
Moi, j'aimerais bien comprendre cette zone de rouge, rouge écarlate, rouge vif, rouge je sais pas quoi. On est vraiment dans la palette de couleurs qu'on ajuste en fonction de ce qu'on a envie de faire passer comme message. En réalité, pour sortir Paris finalement de l'urgence, on met Marseille dans l'urgence. Moi, je demande à ce qu'on respecte les Marseillais. La situation sanitaire ne justifie pas cette annonce, quoi. Et je trouve que maintenant, ça suffit. On peut pas trembler à chaque instant et à chaque fois que le ministre de la Santé va s'exprimer sur Marseille.
Samia Ghali interrogée pour RTL par Étienne Baudu.
Alors, il faut quand même dire qu'à Marseille, Dominique, comme en Guadeloupe, la situation est aujourd'hui très préoccupante.
Le taux d'incidence y dépasse désormais le seuil des 250 cas pour 100 000 habitants et le virus s'y propage très rapidement. Une quarantaine de militaires vont d'ailleurs être envoyés en Guadeloupe pour prêter main forte au personnel soignant alors que les structures sont au bord de la saturation.
Et nous serons dans quelques minutes sur cette antenne sur RTL avec le patron des restaurateurs et des hôteliers marseillais. Il sera notre invité parce qu'il ne comprend pas ces mesures.
En dehors de Marseille, d'autres grandes villes de métropole voient elles aussi les règles se durcir. Paris et la Petite Couronne, mais aussi Bordeaux, Lyon, Nice, Lille. On cite Toulouse, Rennes, Rouen, Grenoble et Montpellier. Dans ces villes, à partir de lundi, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22h. Les salles de sport et les gymnases devront rester fermés. Au total, 13 000 nouveaux cas ont été recensés hier en France et les patients Covid occupent déjà 20% des lits en réanimation. Alors cette deuxième vague, il n'y a plus guère de doute désormais, elle est bien là. Elle touche aussi nos voisins européens. On évoquait hier la fermeture des pubs en Angleterre, dès 22h ce soir, à Madrid. C'est l'armée qui a été appelée en renfort, notamment pour faire respecter un reconfinement décrété dans le sud de la capitale espagnole. Diane Cambon.
Des bataillons de l'armée vont être déployés ces jours-ci dans les quartiers les plus touchés par le Covid. Les militaires qui ont été appelés à la rescousse par la présidente de la région sont chargés de faire passer 500 000 tests PCR. Actuellement, des files d'attente interminables se forment devant les centres de santé publique, lesquels sont totalement débordés par la situation. L'autre grande préoccupation est de faire appliquer les restrictions par quartier, comme la fermeture des restaurants et bars à 22h ou limiter la mobilité des habitants. 200 agents supplémentaires de la garde civile et la police nationale seront chargés de contrôler les axes les plus fréquentés par la population et de ne laisser passer que ceux qui travaillent en dehors de la zone restreinte.
Reportage à Madrid, signé Diane Cambon.
RTL, 6h04, le reste de l'actualité, avec maintenant cet espoir, avec de nouvelles analyses d'ADN qui pourraient permettre de relancer de vieilles affaires.
Et cela grâce à un matelas utilisé il y a quelques années par Michel Fourniret. On y avait retrouvé, il y a quelques mois, des traces ADN pouvant appartenir à Estelle Mouzin, ce qui a permis une avancée décisive dans cette affaire. Ce sera peut-être le cas dans d'autres dossiers, et notamment la disparition de la petite Marion Wagon il y a 24 ans.
Un cold case parmi d'autres, termes anglo-saxons donnés à ces vieux dossiers criminels non résolus. Alors c'est assez fascinant et on avait envie ce matin sur RTL de s'y arrêter avec notre brigade.
Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'on sait combien il y a de cold case en cours. Est-ce qu'on connaît le chiffre ?
Alors, il est impossible de donner un nombre précis, tout simplement parce qu'il y a chaque année en France des dizaines de crimes non résolus, notamment 20% environ des homicides, et il y en a eu 970 l'an dernier. Beaucoup de dossiers, donc, dorment dans les tiroirs des palais de justice, mais ceux que les magistrats espèrent résoudre, notamment ceux qui concernent des enfants ou des adolescents, eh bien, ils restent sur la pile, et c'est ceux qu'on appelle les cold cases. Selon un commissaire spécialisé, il y en aurait entre 300 et 400 actifs en France, actuellement répartis entre différents services de police et de gendarmerie. Le problème, c'est que ces enquêtes ne sont pas regroupées. Un office central, l'OCRVP, est censé les centraliser, mais en réalité, il n'en suit qu'une centaine. Impossible donc parfois de trouver des correspondances, notamment.
Et qu'est-ce qui fait avancer un cold case, Thomas ? La science permet-elle de démasquer aujourd'hui des assassins qui se croyaient oubliés ?
Alors, l'ADN, vous vous en doutez, a bien sûr conquis une place centrale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on sait aujourd'hui l'isoler sur des matériaux qui étaient jusqu'alors inexploitables. C'est ce qui s'est produit dans le dossier Fourniret. On sait également comparer des ADN partiels ou des ADN de la parentèle. Et c'est comme ça qu'a été identifiée en 2018 la petite martyre de la 10. Vous vous souvenez, une fillette de 4 ans retrouvée morte en 1987. Son ADN a soudainement matché avec celui de son frère qui avait été arrêté pour un délit mineur. C'est ce qui a permis de remonter à ses parents qui ont avoué le crime. Il y a aussi désormais des logiciels d'analyse capables d'ingérer des masses et des masses de données, de trouver des correspondances. Encore faut-il que les magistrats ordonnent les actes, souvent onéreux, dans le cadre de budgets limités, on le sait, d'où la pression constante des familles qui mènent tout un très très long combat, et parfois depuis plus de 30 ans.
Et depuis 30 ans, 30 ans après, il y a toujours des enquêteurs qui travaillent dessus.
Oui, par exemple, l'affaire Sabine Dumont, violée, étranglée à 11 ans en 1987 dans l'Essonne. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé, même si les enquêteurs possèdent un ADN complet. À l'époque, la prescription était de 10 ans pour les crimes, mais la loi prévoit que chaque nouvel acte d'enquête remet le compteur à zéro, ça a été le cas ici. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux cruciaux pour les juges et les enquêteurs, surveiller les cold cases qui risquent de basculer dans la prescription pour effectuer un acte, sinon l'enquête est définitivement refermée.
L'éclairage assez fascinant ce matin de notre spécialiste Thomas Proutot, chef du service police-justice sur RTL. Merci beaucoup Thomas. L'actualité, c'est aussi le calendrier politique ce matin sur RTL, puisque dans quelques jours, dimanche, aura lieu le second tour des législatives partielle dans 4 circonscriptions, conséquence du dernier remaniement ministériel et municipal.
On votera notamment dans le Val-de-Marne, bataille à gauche pour la 9e circonscription, un socialiste, un écolo et l'ambiance tendue de la campagne augure mal de la volonté de rassemblement, pourtant affirmée par les deux partis. Reportage Marie-Bénédicte Allaire.
La socialiste Isabelle Santiago, élue départementale, dispose d'une confortable avance après le premier tour. Sur le marché d'Alfortville, elle peut donc afficher sa sérénité.
Je suis une enfant de la ville. Les gens me connaissent. J'aime vraiment changer la vie des gens. Et à Alfortville, tout le monde le sait. En fait, le débat d'apparatchik, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je souhaite être une députée de la nation qui est proche de ses électeurs. Et c'est sur quoi, je crois, les gens me font confiance.
Une pierre dans le jardin de Sandra Regol. À quelques mètres de là, l'écologiste tendue dénonce des menaces en coulisses depuis qu'elle a refusé de se désister. La numéro 2 des Verts a beaucoup de retard à rattraper, mais elle veut signifier aux socialistes qu'il n'y a plus de chasse gardée.
On partage les mêmes valeurs, sociales, solidaires, etc. Mais on me demande beaucoup plus. On me demande de transformer la société en profondeur. On a bien vu que ça gênait beaucoup de monde. Quel que soit le résultat ce dimanche soir, on sera encore là demain, après-demain.
La volonté annoncée de rapprochement entre les deux partis paraît encore bien loin d'aboutir à 6 mois des régionales.
Reportage signé Marie-Bénédicte Allaire.
Saint-Germain-des-Prés, orphelin ce matin. Sa jolie môme est partie hier. Juliette Gréco avait 93 ans.
Icône de la chanson française, elle est décédée dans sa maison de Ramatuelle. Gréco a mis des poètes et des musiciens qui a chanté les plus grands, Queneau, Sartre, Trenet, Gainsbourg. Actrice également, l'inoubliable Belle Fégor dans les années 60, à laquelle la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a souhaité rendre hommage hier soir sur RTL.
C'est une sorte de kaléidoscope de célébrités qui l'entourent dans le cinéma, dans la chanson. Elle participait aussi à un mouvement culturel, ce mouvement culturel de Saint-Germain-des-Prés qu'on a appelé l'existentialisme. Mmh. Elle était copine aussi bien avec Jean-Paul Sartre qu'avec Boris Vian. Elle a été la première chanteuse française à chanter à la Philharmonie de Berlin. Et c'est ça peut-être qui symbolise pour moi Juliette Gréco, c'est qu'elle était universelle dans sa conception de l'art et de la vie d'une artiste.
Roselyne Bachelot, hier soir, interrogée par Thomas Soto sur RTL.
Et on va continuer de rendre hommage, bien entendu, à Juliette Gréco. Racontez-nous votre Juliette Gréco, celle qui, avec ses chansons, a peut-être rythmé votre existence au 32-10, bien entendu, ce matin. Et on reviendra sur cette immense carrière, cette vie hors du commun dans Laissez-vous tenter première dans quelques minutes sur RTL.
Quatre matchs de suspension pour l'attaquant du PSG, Di Maria, suspendu pour avoir craché en direction du Marseillais Alvaro González lors de la rencontre électrique remportée par l'OM le 13 septembre dernier. Quant aux insultes racistes dont Neymar dit avoir fait l'objet de la part du même Alvaro González. On suit ce feuilleton depuis bientôt 15 jours. La commission de discipline de la Ligue se prononcera mercredi prochain.
Les courses à Compiègne.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 3, le 12, le 5, le 7, le 14, le 6 et le 13. La dernière minute, le 5, Rock the Race.
Merci Dominique, à tout à l'heure à 7h sur RTL.